bon, tout le monde a plus ou moins entendu parler de la FNSEA. Donc des manifestations plus ou moins symboliques, sympathiques, ou un peu moins pour la propreté urbaine. D'un autre côté, des relations assez étroites avec le pouvoir politique. Les images publiques de l'agriculture, c'est aussi des livres. Alors là, je vous montre la couverture du seul livre, à ma connaissance, qui s'appelle « Une histoire de la FNSEA ». C'est écrit par Gilles Luneau, donc, qui est journaliste, journaliste militant, proche de la Confédération paysanne, de sensibilité écologiste, écrit dans Reporter notamment en ce moment. Je veux pas dire grand-chose sur le livre, c'est un livre documenté intéressant. Là, je voudrais juste commenter la couverture très rapidement, la couverture du livre, dont la responsabilité incombe principalement à l'éditeur, je pense, puisque c'est un livre qui avait pour destination le grand public, avec tous les guillemets que vous voulez. Bon, il me semble que, vous voyez, il y a beaucoup de noir, la forteresse agricole, ça veut dire quelque chose d'un peu solide, d'un peu imprenable, un peu impénétrable. Vous avez du blanc, du rouge. Bon, il me semble que ça fait un peu livre noir du communisme, sauf que là, ça sera livre noir de la FNSEA. L'image qui est un peu atypique d'ailleurs par rapport aux vraies manifestations agricoles, là, c'est une masse de gens qui ne parlent pas, qui n'ont pas de slogan, qui sont habillés avec des chemises vertes en plastique. Ça fait un peu fascisme rural si bon, je veux pas. Si on a un peu de culture historique des mouvements ruraux et si on veut extrapoler un peu. Bref, il me semble que ça condense un certain nombre de stéréotypes qu'on retrouve en général dans les discours publics et médiatiques sur la FNSEA et qui en donnent l'image d'une organisation pas très sympathique, une sorte de mafia qui contrôlerait un peu toute l'agriculture et qui serait responsable de la plupart des problèmes de l'agriculture contemporaine. Si vous regardez des documentaires journalistiques, comme il y en a assez régulièrement, ou deux par an, il y en a eu un l'année dernière, c'était un peu ça, quoi. La FNSEA contrôle tout du marché des terres, c'est un peu une mafia, etc. Bon, ce que j'ai voulu faire, c'est autre chose. Et alors déjà, bon, quand on dit il y a des images, qu'est-ce qu'elles ont de commun? Il me semble que c'est des images qui sont un peu stables depuis des dizaines d'années. On a un peu toujours le même discours sur la FNSEA. On peut l'expliquer de façon assez simple, assez grossière. Je vais vraiment très très vite, et puis c'est pas l'objet central de ma thèse, mais c'est quelques hypothèses lancées assez rapidement. Il me semble qu'actuellement, il y a un regain d'intérêt pour l'agriculture de la part d'un ensemble de groupes sociaux et militants, parce que on est dans une période de changement politique de la politique agricole. Donc il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de groupes qui peuvent avoir envie de faire avancer leurs idées dans ce cadre-là. Mais aussi l'agriculture est utilisée comme support de discours idéologiques un peu à tout va, sans forcément toujours de lien très étroit avec la réalité de l'agriculture. Il me semble que la FNSEA a aussi une part de responsabilité dans cette situation, dans le fait qu'elle se prenne autant de critiques, parce que dans le discours de la FNSEA, il y a une sorte d'assimilation entre l'agriculture et les agriculteurs, et la FNSEA revendique de représenter tous les agriculteurs. Donc c'est comme si la FNSEA, dans son discours, revendiquait d'être l'agriculture. Alors c'est deux assimilations qui sont fausses, enfin, mais bon, c'est des fictions politiques. Et ça, c'est le choix de la FNSEA elle-même d'utiliser ce discours-là. Et dernier point là-dedans, enfin, pour expliquer le fait qu'il y ait des images très stables et un débat un peu hystérique sur la FNSEA, il me semble qu'il y a peu de travaux de sciences sociales qui permettent de donner une image un peu différente, un peu plus apaisée, disons. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est prendre le contre-pied de sa représentation un peu caricaturale et puis faire un travail de sciences sociales qui s'intéresse à la stabilité ou au changement et à expliquer cette stabilité et le changement, c'est-à-dire faire de la FNSEA un objet historique, bon, dans la suite d'autres travaux de sciences sociales, hein, je n'invente pas la lune non plus. Deuxièmement, ce que j'ai voulu faire, c'est m'intéresser au travail quotidien de la FNSEA qui, j'espère vous en convaincre, est assez éloigné des manifestations spectaculaires dont on a pu voir quelques photographies auparavant. Alors, bon, je vous ai parlé de la FNSEA sans la définir, sans préciser ce que c'est, donc je vais le faire quand même, petit à petit. Vous savez sans doute que c'est le principal syndicat d'agriculteurs en France. Le principal syndicat d'agriculteurs en France, on peut le compter en nombre, on peut le compter en budget, on peut le compter aussi en score aux élections professionnelles et au pouvoir que ça confère aux syndicats qui gagnent les élections. Pour ce qui est de ces élections, vous savez probablement que la FNSEA gagne les élections professionnelles qui sont organisées tous les 6 ans à échelon départemental, les élections pour les chambres d'agriculture. Et la FNSEA actuellement contrôle 94 des 97 chambres d'agriculture, sauf erreur de ma part. Donc ça lui confère un pouvoir de gestion important. La FNSEA est construite comme un élément central du gouvernement, de l'agriculture, en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, je vais développer un peu ce point-là après. Et il me semble que c'est un syndicat qui reste important dans le gouvernement du secteur, important parmi les agriculteurs, bien que le contexte lui soit plutôt défavorable depuis une trentaine d'années. Et donc expliquer ce point-là permet de tenir dans une problématique un peu commune tout un ensemble de fils que je vais essayer de vous dérouler maintenant. Alors, voilà des problématiques qu'on peut extraire à partir de ces quelques caractéristiques, des problématiques de sciences sociales qui sont soit sociologiques, soit plus historiques. Comment comprendre que les agriculteurs qui représentent un petit groupe professionnel, une petite catégorie socioprofessionnelle en nombre actuellement, c'est 2% de la population active, également un petit groupe professionnel en nombre parmi l'agriculture, si on prend en compte tous les gens qui travaillent dans les industries d'amont, dans les industries d'aval, dans la transformation, dans l'encadrement de l'agriculture. Pour prendre un chiffre que la FNSEA aime bien citer, un agriculteur fait vivre, donc d'après les termes de la FNSEA, fait vivre 7 personnes, enfin 7 emplois. Donc les agriculteurs eux-mêmes représentent maximum 15% du nombre de travailleurs dans le secteur agricole et agroalimentaire pris au sens large. Donc comment comprendre qu'un petit groupe professionnel arrive à avoir autant de pouvoir? Deuxièmement, une question très classique de sociologie, du syndicalisme agricole, comment comprendre la cohésion d'une organisation aussi diverse, dont les membres ont des intérêts potentiellement aussi divergents ou antagonistes? À la FNSEA, il y a beaucoup de céréaliers et d'éleveurs. On sait bien que si le prix des céréales monte, le revenu des éleveurs diminue d'autant. Donc comment ces gens font pour s'entendre à peu près et cohabiter politiquement au quotidien? Troisièmement, une question un peu plus d'économie politique. Le secteur agricole s'est construit comme étant très corporatiste dans sa manière d'être régulé, d'être gouverné. Or, depuis une trentaine d'années, on observe des tendances à la libéralisation du secteur agricole. Bon, j'aurais dû mettre des guillemets à libéralisation, mais enfin, pour dire que c'est compliqué. Mais enfin, de manière générale, on voit quand même un processus assez cohérent. Et il me semble que observer la place de la FNSEA, la manière dont elle arrive à garder du pouvoir, de l'influence de différentes manières, permet de dire des choses sur les transformations du secteur agricole en général et le pouvoir des agriculteurs, etc. Le pouvoir de la FNSEA repose sur 4 grands piliers, il me semble. Tout d'abord, le fait d'être associé de façon assez étroite à la mise en œuvre des politiques publiques. Le fait que la FNSEA ait un poids politique, mais aussi un poids sur l'administration, je développerai ça un peu plus tard. Deuxièmement, c'est une organisation assez centrale dans l'espace des organisations professionnelles agricoles. C'est-à-dire, comme vous le savez, très, très certainement, l'agriculture est un secteur saturé d'institutions d'encadrement des agriculteurs. Il y a énormément d'institutions spécifiques au secteur agricole qui contribuent à faire le gouvernement de ce secteur. Et la FNSEA a des liens étroits historiquement avec toutes ces organisations. C'est un syndicat également qui a une influence économique, directe et indirecte. En particulier, bon, du fait du point précédent, mais j'entends par là le fait que la FNSEA forme les administrateurs des organisations agricoles économiques principales, le Crédit Agricole, les coopératives, etc. C'est beaucoup des gens qui sont passés par la FNSEA. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit des gens qui soient tenus par une loyauté absolue à l'égard du syndicat, mais ça, c'est une forme d'influence économique indirecte. Le syndicat est aussi impliqué dans des négociations sur les prix des produits. Donc ça, c'est du poids économique direct. Et enfin, C'est un syndicat qui possède une base d'adhérents nombreuse et plutôt parmi les agriculteurs, donc on a dit modernistes dans la période des années 60-70, 80, c'est les gens plutôt moyens-gros économiquement et qui sont les plus investis dans le développement technique, enfin, ou qui sont relativement investis dans le développement technique, donc qui sont investis dans la compétition pour se maintenir dans l'agriculture et s'agrandir. Alors ce que j'ai voulu faire, c'est étudier toutes ces dimensions-là simultanément et voir leurs évolutions. Alors, je vous dis juste un mot sur la structure institutionnelle de la FNSEA. C'est un syndicat qui, un peu à la différence de ses concurrents, est implanté dans tous les départements et toutes les régions de France, revendique 200 000 adhérents environ. Donc les départements, les régions, ça fait un découpage territorial, et il y a, comme dans n'importe quelle organisation, aussi un découpage vertical, un découpage thématique, qu'on peut décrire suivant deux pôles. Tout d'abord, les branches par produit, enfin ce que j'appelle les branches par produit, c'est appelé aussi les associations spécialisées par produit. Donc les représentants du blé, les représentants du lait, les représentants des représentants des producteurs de blé, de producteurs de lait, de producteurs de viande, etc. Alors ça, c'est des organisations qui sont structurées au niveau national et qui partagent les sections départementales avec les sections départementales générales de la FNSEA. C'est des branches, enfin les branches par produit ont un positionnement politique qui consiste à dire on défend la productivité et on défend des prix les plus élevés possibles. Mais de fait, bon, elles défendent plutôt les gros exploitants. Enfin, les branches par produit, pour dire très très vite, c'est un peu la droite de la FNSEA. C'est un syndicat qui est composite, et voilà, ces branches-là représentent plutôt les orientations les plus économiques. Vous avez les sections dites sociales. Alors, c'est par catégorie de population agricole, ou alors, bon, ce que j'ai appelé autre enjeu. Dans les sections dites sociales, vous avez les propriétaires agricoles, vous avez les locataires de terres agricoles, vous avez les anciens exploitants, les femmes. Voilà, vous avez des divisions de ce genre-là. Vous avez aussi les sections fiscales, les sections environnementales. Bon. De manière générale, les enjeux... disons de gauche ou portés par le mouvement social, tout ça avec des gros guillemets, sont plutôt portés par les sections sociales. Mais de manière générale, les branches par produit sont dominantes à la FNSEA, ont des fonds propres et ont une grande autonomie d'action. Voilà, pour un tableau très général. Et toutes ces branches et ces sections ont des structures communes au niveau du département. Ça, je vous l'ai dit. Et ça explique pourquoi je me suis intéressé au niveau départemental. Le département, en fait, et je vais vous dire pourquoi le département de l'Orne, mais l'échelon départemental, ça permet de voir beaucoup de choses. Ça permet de voir donc les sections par produit, les sections sociales, et de voir comment elles cohabitent. C'est aussi au niveau départemental qu'on voit le mieux le travail de mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire le travail avec l'administration au quotidien. Bon, j'ai travaillé en fait sur plusieurs départements, principalement sur le département de l'Orne. Lait, viande, céréales, un peu la betterave, c'est les productions les plus organisées à l'intérieur de la FNSEA. Et ça se comprend aussi parce que c'est les productions qui dépendent le plus de la politique agricole commune. Et la politique agricole commune, c'est un cheval de bataille très important à la FNSEA. Donc, comme j'ai voulu m'intéresser à la cohésion interne, notamment entre différentes productions, enfin représentant des différentes productions, j'ai voulu prendre un département ou des départements qui sont situés à la limite entre bassins de production. Et l'Orne, à ce titre-là, est pratique, c'est-à-dire c'est à la limite du bassin parisien et du bassin laitier de l'Ouest. J'ai aussi un peu travaillé en Côte d'Or, qui est là aussi à la limite du bassin parisien et comprend lait, viande, céréales, pas en proportion équivalente à l'Orne, mais... voilà, il y a une certaine diversité de ces productions-là. L'avantage de l'Orne, C'est qu'on a une opposition syndicale qui est assez forte. On n'a pas une FNSEA qui est complètement dominante. Donc voir la manière dont la FNSEA lutte contre l'opposition syndicale, ça permet, ça peut se faire dans ce cadre de terrain. Enfin, c'est une FDSEA dans l'Orne, D pour départemental, qui est de taille moyenne. Il y a 7-8 salariés, c'est assez typique, voilà, des fédérations départementales. Alors, comment j'ai procédé ? J'ai fait une ethnographie, une enquête de terrain avec insertion assez longue à la FDSEA de l'Orne. J'ai observé des réunions qui peuvent être assez longues, une journée ou une demi-journée, donc j'ai fait peut-être 50 jours de réunions. J'ai fait des entretiens avec les dirigeants, donc les agriculteurs qui sont élus en tant que président, etc., de la FDSEA. Des entretiens avec les salariés du syndicat qui sont 7-8 en moyenne. Rester longtemps, ça m'a permis aussi de collecter tout un ensemble de documents internes, des comptes rendus de réunion, des documents comptables, etc. Ça, c'est nécessaire, souvent, dans mon expérience, c'est nécessaire de rester assez longtemps, parce que je suis allé dans d'autres départements, j'ai demandé s'ils avaient des documents, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien du tout. Bien sûr, c'est faux, tout est très bien archivé, mais il faut montrer patte blanche assez longtemps pour y avoir accès. J'ai également fait des petites enquêtes à échelle cantonale, là pour voir de manière qualitative l'implantation de la FNSEA parmi les agriculteurs. Et enfin, j'ai fait des analyses statistiques sur la base du fichier des adhérents et pour expliquer aussi le vote aux élections professionnelles. Voilà, donc le plan que je vais adopter pour vous présenter des résultats rapidement, c'est celui-là. Donc dire un mot sur la place institutionnelle de la FNSEA dans l'espace des organisations agricoles. Deuxièmement, je vais me concentrer sur la relation entre la FNSEA et l'administration pour montrer que le syndicat arrive assez bien à rester important pour la mise en œuvre des politiques publiques, pour contraindre l'administration à orienter les politiques dans le sens qui l'intéresse, mais qu'au niveau des marchés, du poids sur les marchés, des circuits économiques, c'est plus difficile. Mon troisième point va plus se focaliser sur les ressources internes à l'organisation. Et quatrièmement, l'implantation parmi les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il en est ? Comment ça se maintient ? Comment ça se transforme ? Voilà. Ça va ? Si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas à faire ci. Alors, l'espace des institutions agricoles et la place de la FNSEA dans cet espace. Bon, pour le raconter de manière très rapide, j'aime bien utiliser cette représentation géographique et utiliser l'architecture des bâtiments agricoles, pas ceux que Philippe a étudiés, mais les bâtiments des institutions agricoles. Pour savoir où habite la FNSEA, ça dit beaucoup de choses sur ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Alors, à gauche, vous avez le plan de la bonne ville d'Alençon. La FNSEA habite dans le carré qui est marqué comme OPA, Organisation Professionnelle Agricole. Les organisations professionnelles agricoles ont un quartier dédié donc en périphérie de la ville, et c'est un peu le cas dans toutes les villes préfectures que vous connaissez. Vous avez aussi sur cette carte la préfecture, donc là où la FNSEA va régulièrement faire des manifestations petites ou grandes, et puis la cité administrative, donc les bâtiments administratifs de l'administration déconcentrée, où la FNSEA va régulièrement faire des réunions pour la mise en œuvre des politiques publiques. Si on regarde à l'intérieur de ce quartier des organisations professionnelles agricoles, à droite, la flèche marque l'entrée du parking, le petit signe là, avec des pointillés, marque le point de vue au sol que je vais vous montrer juste ensuite. Si vous regardez simplement ça, vous voyez que vous entrez, vous avez en face de vous la chambre d'agriculture, à gauche le Crédit Agricole et à droite la Mutualité Sociale Agricole, donc la Sécurité Sociale Agricole. Donc vous avez au milieu le pôle de la représentation des agriculteurs, à gauche le pôle économique et à droite le pôle Sécurité Sociale, État Social de l'agriculture. Un peu derrière, vous avez le bâtiment du contrôle laitier, donc du... c'est du conseil technique, vous avez pas loin les assurances agricoles, etc. Alors, où est la FNSEA là-dedans? Pour ça, il faut avoir un autre point de vue. Donc là, vous êtes sur le parking du quartier des organisations agricoles à Alençon en 2007. Vous retrouvez à gauche le Crédit Agricole, à droite la MSA et au fond la Chambre d'Agriculture. La FNSEA là-dedans, la FDSEA plus précisément, se trouve au milieu en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand vous entrez dans ce complexe architectural, eh ben, quand vous êtes agriculteur, la première institution que vous rencontrez, si vous passez par le milieu, la porte principale, c'est la FNSEA. Il me semble que ça illustre assez bien l'idée que la FNSEA a été constituée dans cette période de construction, dans la période dont ce complexe architectural est le témoin. Ça a été construit dans les années 70. Il me semble que la FNSEA, là-dedans, apparaît comme une interface un peu général entre les agriculteurs et l'ensemble des organisations agricoles. Apparaît aussi comme la base du pôle de représentation. En fait, dans ce bâtiment de la Chambre d'agriculture, vous avez la FNSEA en bas, vous avez la direction, enfin la présidence de la Chambre d'agriculture tout en haut, et entre les deux, vous avez tout un ensemble d'organismes, organismes techniques, ou les syndicats minoritaires également, vous avez la SAFER, enfin vous avez plein de choses. Mais voilà, je voulais vous montrer ça, l'idée que la FNSEA est représentée comme une interface totale. Je voudrais souligner que cette architecture est évolutive, et ça c'était en 2007, maintenant vous n'avez plus le Crédit Agricole. En fait, le Crédit Agricole est parti dans le quartier des banques. Et de manière générale, on peut voir à travers l'architecture, mais aussi à travers les relations politiques et d'autres choses, que les organisations économiques de l'agriculture s'autonomisent, deviennent moins spécialisées agricoles, et qu'ils restent dans les quartiers des organisations agricoles, plus le pôle social, la MSA, et surtout le pôle représentation. C'est-à-dire que vous avez déjà là un peu ce que je vais vous raconter, à savoir que le syndicalisme et les organismes plutôt de la représentation des agriculteurs contrôlent moins qu'auparavant les circuits économiques. Mais n'anticipons pas. Une autre chose qu'on voit là-dedans, c'est que la FNSEA est au pied d'une tour de bureau et encadrée par des bureaux. La réalité du travail au quotidien de la FNSEA, c'est beaucoup de réunions. Voilà, beaucoup de réunions dans des bureaux. Ça aussi, c'est des photos prises sur Internet qui ne sont pas des photos de l'Orne. Mais à gauche, vous avez une réunion FNSEA d'arrondissement, enfin de petite région. Et à droite, c'est une réunion cantonale. Les réunions au niveau départemental, c'est 15-20 personnes, en moyenne, ça dépend des sections, qui se réunissent. Le point sur lequel je vais insister, c'est que une des fonctions premières de la FNSEA au niveau départemental, c'est de répondre à la demande institutionnelle de représentation des agriculteurs. Il y a un énorme travail à faire, il y a beaucoup de sièges qui sont réservés aux agriculteurs, soit dans des organisations agricoles, soit dans des organisations moins directement professionnelles, et il faut remplir ces sièges-là, et l'État est très content qu'il y ait un syndicalisme majoritaire, dominant, qui soit très institutionnalisé comme l'est la FNSEA, pour remplir ces sièges. Alors, où se trouvent ces sièges? Vous avez donc des sièges de représentation auprès de l'administration étatique, administration déconcentrée pour la mise en œuvre des politiques publiques, donc des sièges dans les organisations agricoles, ça je l'ai mentionné, et dans des commissions diverses, dans les lycées agricoles, dans les commissions des impôts, dans les commissions qui négocient les conventions collectives des salariés de l'agriculture, enfin vous en avez plein, plein, plein. Dans mon manuscrit de thèse qui circule, l'annexe C, je crois, contient l'ensemble des sièges que doivent remplir les dirigeants de la FNSEA. Donc vous avez, je ne sais plus, 200 sièges pour 15 membres du bureau. Donc ça fait, enfin, ça vous donne une idée déjà du travail de représentation que ces gens-là doivent assurer. En résumé, pour clore cette première partie, donc c'est un syndicat qui a une place d'interface, qui doit répondre à une forte demande de travail de représentation. C'est un syndicalisme qui prend des dirigeants agricoles assez jeunes et qui leur fait faire des réunions. C'est des gens qui sont formés au travail de gestion de l'agriculture. qui sont formés aux techniques, aux papiers, aux courbes, un raisonnement économique assez simple, à des connaissances juridiques. Et ça leur fait acquérir un sentiment d'expertise assez important, ce qui est extrêmement rare hein, dans le paysage du syndicalisme français. Enfin, il y a très 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 peu de syndicalistes qui ont autant de pouvoir de gestion et qui forment des gens de milieux plutôt populaires à la maîtrise d'outils bureaucratiques et politiques de ce genre, quoi. Donc ça forme une armée de responsables locaux, cantonaux, départementaux qui peuvent se sentir autorisés à circuler dans des espaces politiques également. Et enfin, tendance à la dissociation entre les pôles économiques et le pôle de la représentation agricole. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Je passe à mon deuxième point. Comment la FNSEA parvient à maintenir une influence sur l'État, ou plus précisément l'administration départementale, mais moins les marchés des produits? Alors là, je procéderai en quatre points. Tout d'abord, la mise en œuvre des politiques publiques. Politiques publiques au sens un peu strict. Deuxièmement, je parlerai des marchés des terres qui sont des marchés semi-administrés, et ensuite des marchés des produits. Donc ça fait un peu une gradation entre le poids de la FNSEA sur des affaires purement administratives et politiques vers des choses plus purement économiques. Bon, il y a beaucoup de politiques publiques qui sont co-gérées avec le syndicalisme agricole. Ce n'est pas forcément parce que... Enfin, il ne faut pas prendre le terme de co-gestion, il me semble, comme une configuration où le syndicalisme agricole et l'administration iraient main dans la main depuis 50 ans sans heurts, sans dispute. Si l'administration pouvait se passer du syndicalisme agricole, elle le ferait sans doute volontiers. Mais on peut voir les relations de co-gestion, le fait que les agriculteurs soient associés aux décisions de politique agricole départementale, comme un rapport de force permanent où le syndicalisme agricole arrive à montrer à l'administration qu'elle ne peut pas faire sans lui. Alors là, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails des politiques. Vous le trouverez dans la thèse, où on peut en discuter après. Mais je prends l'exemple, d'une procédure extrêmement simple comme les calamités agricoles. Alors les calamités agricoles, vous savez peut-être ce que c'est. Il y a un fonds national alimenté par l'impôt, sauf erreur de ma part, qui permet d'indemniser les agriculteurs, enfin plutôt les régions, les petites régions agricoles, qui ont subi des intempéries au-delà d'un certain niveau, intempéries qui leur ont fait perdre des sous. Enfin, des récoltes, etc. Donc pour qu'il y ait une continuité relative, une indemnisation, il y a un mécanisme d'assurance géré par l'État. Alors pour qu'un département ou que des petites zones d'un département aient accès à ces dédommagements, c'est l'administration départementale qui doit faire un dossier en chiffrant les pertes et transmettre ça au niveau national en défendant le dossier. De fait, ça n'a pas de soi. Le travail de la FNSEA sur ces dossiers-là, qui sont tout à fait routiniers, hein. Enfin, une fois tous les quelques années, vous avez des dossiers, même un peu plus fréquemment que ça, d'ailleurs. Des dossiers de ce type. Les syndicalistes de la FNSEA se mobilisent pour faire le dossier ou produire des chiffres qui sont les plus favorables à leur cause. Et puis talonner l'administration pour que l'administration départementale dépose vraiment ce dossier au niveau national, le défende du mieux possible, etc. Quoi. Donc, pourquoi ils peuvent faire ça? Parce qu'ils ont des habitudes de travail, parce qu'ils ont de l'expertise accumulée sur comment il faut compter, sur comment faire les dossiers. Aussi parce qu'ils ont des moyens, du secrétariat, ce qui permet d'archiver, de garder une mémoire, transmettre une mémoire de ces procédures-là. Et ça, les syndicats minoritaires ou les syndicats dans d'autres secteurs n'ont pas nécessairement ce genre de capacité. Deuxième point, bloquer les circuits d'information de l'administration. Donc la FNSEA n'a pas seulement comme capacité d'aider l'administration, d'aider et de pouvoir pousser l'administration, mais peut aussi bloquer la mise en place du travail administratif. Là, je prends l'exemple de l'administration de l'eau. Une agence de l'eau qui voulait faire passer un questionnaire aux agriculteurs. c'est du travail administratif tout à fait ordinaire, collecter des informations pour ensuite faire une politique publique, etc. La FDSEA n'a pas été consultée pour ce questionnaire, a considéré qu'il n'y avait pas d'obligation juridique pour les agriculteurs à répondre, et donc a communiqué via son journal, qui touche beaucoup d'agriculteurs, en disant de ne pas répondre à ce questionnaire. Donc, simplement à entraver le travail de l'Agence de l'eau avec comme motif minimal de ne pas avoir été associé. Donc là, ça montre bien que voilà, la gestion commune des politiques publiques n'est pas un long fleuve tranquille. Dernier élément, contester les instruments de l'administration. Alors, là encore un exemple, enfin je prends juste un exemple sur l'eau. L'administration voulait mettre en place une politique, enfin à plusieurs moments d'ailleurs, a voulu mettre en place une politique de protection des cours d'eau, etc. Pour ça, elle s'appuie sur des cartes. La FDSEA a dit non, ces cartes ne sont pas tout à fait correctes et on va vous proposer des modifications. Donc, à mobiliser les agriculteurs de l'Orne pour leur dire regardez bien les cartes IGN. Si les tracés ne correspondent pas exactement, enfin, si les tracés sur votre ferme ne correspondent pas exactement aux cartes IGN, signalez-le et on va expliquer à l'administration qu'il faut changer les cartes, sinon on va leur faire des procès au tribunal administratif. Là aussi, hein, enfin, je souligne le caractère assez incroyable d'organisation, de maillage du territoire, de capacité à mobiliser tout un ensemble d'adhérents. C'est très très rare hein, dans le paysage syndical français et dans les rapports entre groupes d'intérêt, syndicats, associations et l'administration, d'avoir autant de pouvoir sur les instruments de travail de l'administration. Regardez, ne serait-ce qu'à l'université, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il me semble qu'on peut montrer que cette capacité de peser ou d'entraver ou d'aider l'administration se maintient assez bien au cours du temps du fait de l'expertise et des réseaux qui sont toujours importants à la FNSEA. Les marchés des terres. Alors, les marchés des terres, sujet extrêmement polémique, parce que, évidemment, les terres, c'est des moyens de production tout à fait fondamentaux pour les agriculteurs. Et, bon, je mets un S à marché pour dire marché de la location et marché de la vente de terres. Ce sont des marchés qui sont en partie gérés collectivement, géré par l'administration et les syndicats agricoles. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous passe les détails. C'est la manière dont ça marche, c'est depuis les années 60-70. Si vous voulez vous agrandir ou vous installer, vous faites un dossier de demande d'autorisation d'agrandissement ou d'installation qui passe devant une commission composé de syndicalistes agricoles et de représentants de l'administration et de représentants d'organisations agricoles diverses qui vous autorisent ou non à vous exploiter. C'est-à-dire que le droit d'usage est très contrôlé. Alors, bon, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des commissions départementales où on délivre des autorisations d'exploiter, des commissions départementales de la SAFER où c'est un peu le même mécanisme. La SAFER préempte des terres, c'est-à-dire achète des terres et le redistribue aux agriculteurs qui sont demandeurs. Mais c'est à peu près le même mécanisme pour ce qui est de la redistribution. Les syndicalistes, au niveau départemental et au niveau local, ont un pouvoir assez important. Donc là, je vous ai mis juste des documents sur lesquels travaillent les syndicalistes. Bon, j'ai pas tellement le temps de les commenter beaucoup. Et alors, à gauche, vous avez en fait les différents candidats. Vous avez des informations sur la taille de leur exploitation, sur les productions qui s'y trouvent, la commune, la localisation. Et vous avez en même temps, au moment de ces commissions-là, des cartes où sont projetées les parcelles et la localisation des parcelles des différents demandeurs. Alors là, vous avez une carte où il y a simplement les parcelles qui sont mises en vente, mais sinon, vous avez la ferme de Monsieur Machin, la ferme de Madame Truc. Et donc, on peut étudier la manière dont les syndicalistes pensent et calculent à qui ils donnent leur soutien, quoi. Alors, un élément de décision dans ce genre de procédure, c'est l'avis du syndicat local, quoi, et l'avis du syndicat départemental. Euh, on peut faire l'hypothèse, on peut spéculer sur l'hypothèse que les gens qui sont adhérents à la FNSEA sont plutôt mieux défendus que les autres dans ce genre de commission. Alors, j'ai pas fait de statistiques avec qui est adhérent, qui est défendu, en faisant toutes choses égales par ailleurs, dans quelle mesure ça permet d'avoir un soutien du syndicat d'être adhérent. Techniquement, c'est sans doute faisable, mais c'est un peu sensible et j'ai pas eu envie de le faire parce que je trouve ça un peu gênant. Ceci dit, il me semble que j'ai observé une trentaine de cas qui sont passés en commission comme ça. C'est un peu ce qui ressort. Sur des statistiques très... sur un petit nombre de cas quand même. C'est aussi ce qui est dans la tête de beaucoup d'agriculteurs. Il me semble, ceci dit, que en pratique, le pouvoir réel des syndicalistes pour l'attribution des terres est beaucoup plus limité que ce qu'il peut y avoir comme croyance sur la question. En réalité, pour étudier ce genre de procédure, je pense qu'on gagne à étudier en dissociant les différents moments, c'est-à-dire le moment où des agriculteurs se portent candidats pour des terres et où ils vont contacter des syndicalistes et ceux qu'ils croient eux-mêmes qui est rentable dans ce genre de procédure. Dans un deuxième temps, étudier le moment réel de la décision en commission. Et là, on s'aperçoit que quand même, largement, c'est des commissions qui sont cadrées par le droit administratif. Les syndicalistes ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et de fait, les gens qu'ils soutenaient, enfin dans les cas que j'ai pu observer, les gens qui étaient soutenus par le syndicat n'avaient pas nécessairement beaucoup plus gain de cause que ça. Alors, les syndicalistes peuvent mettre des bâtons dans les roues, dans les gens. Ça peut retarder des procédures. Ils peuvent jouer sur le temps, etc. Mais c'est pas une déformation terrible du marché. Et enfin, dernier moment de l'analyse, comment l'information sur la manière dont ces décisions ont été prises, comment l'information est contrôlée et diffusée aux agriculteurs, etc. La raison pour laquelle c'est très sensible, ces commissions-là, c'est parce que c'est très important pour les syndicalistes, à mon avis, de contrôler l'information. Donc, conclusion de cette affaire-là, les syndicalistes sont beaucoup moins tout-puissants que ce que certaines personnes disent, à mon avis. Deuxième point important, pour le syndicat, c'est quand même des dispositifs extrêmement importants pour l'avis des sections cantonales, parce que ça... Oui, les sections cantonales du syndicat doivent se prononcer, donc ça, c'est des choses qui intéressent quand même les gens, donc ça fait des réunions cantonales et des cellules qui s'occupent, qui travaillent. Et c'est important pour les adhésions. Il y a un certain nombre de gens qui disent « j'adhère pour être soutenu dans les procédures ». Donc c'est important de garder des dispositifs de ce genre, quelle que soit leur forme. Enfin, il faut que cette forme reste, même si le périmètre précis d'application des dispositifs peut varier. Voilà, c'est des dispositifs qui sont concertés, qui sont assez fortement contestés au niveau agricole, au niveau des parlementaires aussi. Il y a des formes de libéralisation du marché des terres, mais jusqu'à maintenant, la FNSEA parvient à garder ce genre de fonctionnement. Je suis un peu trop lent, donc je vais aller un peu plus vite. Les marchés des produits. Bon, alors là, ça devient vraiment très compliqué parce que les marchés des produits sont organisés de façon très variable. Le lait, c'est pas la même chose que le cochon, c'est pas la même chose que les céréales. Bon, je voudrais dire deux choses. Si on prend le lait depuis une dizaine d'années, bon, le lait était très organisé, un marché organisé par les quotas laitiers, donc des maximums de production par exploitation, et des négociations collectives au niveau régional, avec la FNSEA comme syndicat représentant les agriculteurs, et puis les représentants des industries agroalimentaires, et les représentants des coopératives. Donc des négociations collectives assez centralisées au niveau régional. La fin des quotas, les réformes de la politique laitière ont fait que... c'est un mécanisme qui marche moins bien, qui a été décentralisé, et la FNSEA aurait aimé garder ce degré de centralisation, mais n'a pas été capable de le faire. Elle essaye de le reconstruire, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a plus de négociations au niveau des entreprises. Le fait que ce soit le seul représentant des agriculteurs producteurs de lait, c'est nettement moins vrai. Cependant, bien qu'il y ait une tendance générale à la libéralisation des marchés agricoles, si on prend l'exemple du colza et le colza diester, c'est-à-dire pour la fabrication de carburant à partir de colza, montre que le syndicalisme agricole peut aussi gagner du terrain sur le contrôle des marchés. Le colza diester, bon, c'est des organisations, enfin la branche oléoprotéagineux de la FNSEA qui est parvenue, avec l'aide de l'État quand même, à monter des grosses industries de transformation de colza en carburant. Donc le syndicat peut aussi, même dans un contexte contemporain, être un entrepreneur industriel. Alors bon, ça reste quand même très, très limité à très peu de production, et il me semble que ça montre surtout que pour gagner ou regagner du poids économique, la FNSEA a besoin très fortement du soutien de l'État. Bon, et sur l'autonomisation des organismes économiques, je ne développe pas là, parce que j'ai déjà un petit peu fait. Dernier point quand même, que j'ai annoncé auparavant, la cohésion interne de la FNSEA. Bon, il me semble que on peut l'expliquer, tout d'abord parce que les branches par produit ont une grande autonomie politique et financière, c'est-à-dire que au niveau départemental, vous avez dans la FNSEA, dans certaines réunions, des représentants laitiers, des représentants de la viande, des représentants des céréales. Mais la raison pour laquelle ils ne se disputent pas trop, c'est qu'ils défendent leurs intérêts ailleurs. La branche laitière a des fonds qui sont autonomes au niveau national et défend ses intérêts au niveau national et européen, un peu comme elle le veut, la branche céréalière également, etc. Deuxièmement, il faut quand même un discours unifiant. Il ne suffit pas de ne pas trop avoir de conflits économiques pour s'entendre. Le discours unifiant de la FNSEA, c'est le discours de l'agriculteur chef d'entreprise. C'est un discours assez plat en réalité. Chef d'entreprise, ça veut dire chacun est responsable de comment il exploite, de ce qu'il gagne, etc. Donc ça évacue les questions de d'inégalité de revenus entre production. Si les céréaliers gagnent plus que les éleveurs, et bien c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Si les gros gagnent plus que les petits, etc., là aussi c'est comme ça, et c'est pas une question de justice qui devrait être traitée par le syndicalisme. Donc ça évacue hors de la sphère des questions de justice, enfin, beaucoup de choses. Et également, pour faire la cohésion du groupe, il y a un peu toujours la construction d'ennemis communs. Alors, c'est les ennemis communs qui, là, sont assez caricaturaux, mais bon, c'est toujours utile. Taper sur l'administration, c'est pratique, même si, en fait, la FNSEA est en relation très étroite avec l'administration sur un ensemble de sujets. L'environnement, dans la période que j'ai étudiée, fait aussi souvent figure de punching ball commun, quoi. Donc des fois, la FNSEA dit des choses très violentes, plus trop depuis un an, mais des choses très violentes sur les défenseurs de l'environnement. Ça se comprend aussi dans une logique de renforcement de la cohésion interne. Enfin, sur les Parisiens, les consommateurs qui savent pas ce qu'ils veulent, etc., ou qui connaissent pas l'agriculture, ça c'est aussi facile. Bon, mais ça contribue à dire, enfin, nous sommes le monde rural, les campagnes c'est nous les agriculteurs, et nous... mais ça renferme aussi un peu le discours sur une construction purement catégorielle du groupe, quoi. Alors ça a des effets que je mentionnerai à la fin. Donc en résumé, toujours du pouvoir administratif important, du pouvoir économique qui diminue, même si c'est pas linéaire, et enfin une cohésion interne fondée sur une posture globalement défensive et conservatrice sur les sujets, par rapport aux nouveaux sujets, aux nouvelles problématisations de l'agriculture, en particulier environnementale. Là, maintenant, je voudrais vous parler de l'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une FDSEA, qu'une fédération départementale, pris sous un angle plutôt économique ? Alors, si on regarde en nombre de salariés, une FDSEA, ça peut se voir comme une très petite entreprise. Donc, dans l'Orne, il y a 7-8 salariés qui proposent un ensemble de services. Alors, services entendus au sens très large. Bon, étudier le syndicalisme sous cet angle-là, c'est pas, c'est une contribution que j'ai essayé d'apporter modestement à la sociologie politique. C'est assez rarement fait. Voilà. Souvent, on étudie les syndicalistes, les syndicats de salariés, et plutôt les syndicats qui revendiquent un certain nombre d'idées et qui font des grèves. C'est-à-dire, il y a plein de travaux sur la CGT, un peu sur la CFDT, et les syndicats plus dits corporatistes ou alors plus moins romantiques, disons, sont assez peu étudiés. Alors, la FNSEA, pour elle, pour les syndicalistes de cette organisation-là, les questions matérielles sont extrêmement importantes, et c'est pour ça que je suis. Pourquoi j'aime bien en parler. Alors, tout d'abord, c'est une structure qu'on peut qualifier, qui me semble qu'on peut qualifier comme souple, au sens où elle a déjà des revenus diversifiés qui se partagent en proportion un peu équivalente, même si il faudrait nuancer, entre des subventions d'État, des subventions directes ou indirectes des organisations agricoles, des adhésions et des services. Services marchands. Deuxièmement, les salariés à la FDSEA ont quelque chose de militant, enfin ont une forme d'attachement à l'organisation. Ils sont moins militants que par le passé, mais souvent ils sont là sur le long terme, pour la plupart d'entre eux. Et tout ça permet une certaine forme de flexibilité à l'organisation. Quand il y a des fluctuations de revenus, les salariés supportent un petit peu mieux qu'ailleurs, des arrangements salariaux, des heures supplémentaires, etc. Enfin, vous faites rarement fortune en tant que salarié de la FDSEA de l'Orne, en tout cas dans le contexte récent. Pour ce qui est des services, on a tendance à voir la FNSEA comme liée de façon étroite à l'ensemble des organismes agricoles. C'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que des liaisons, ça peut être des relations de travail, ça peut être des dirigeants qui circulent entre les organisations agricoles, ça peut être des formes de subventions, etc. Ça peut aussi être des formes de concurrence, et il me semble que les concurrences entre organismes agricoles sont de plus en plus importantes dans les dernières années. Alors, je peux prendre l'exemple du service juridique de la FDSEA de l'Orne. C'est un élément assez important dans toutes les fédérations départementales. C'est un service qui s'est beaucoup développé dans les années 70 et 80 sur la base... pour une expertise sur les terres, les loyers, les fermages, et pour aider les agriculteurs à négocier leur fermage au mieux. De plus en plus, les centres de gestion agricole ont développé des services juridiques, et les centres de gestion agricole, maintenant, sont des organisations très importantes, qui ont accès aux agriculteurs très régulièrement, vu que les comptables viennent faire la comptabilité dans les fermes, donc peuvent leur proposer des services juridiques au passage. Et économiquement, c'est des structures qui sont beaucoup plus importantes que les fédérations de la FNSEA. Donc, les fédérations de la FNSEA ont du mal à maintenir un service concurrentiel sur le plan du service juridique. Pour ce qui est du conseil aux agriculteurs, le conseil technique est extrêmement difficile à développer pour la FNSEA, qui est voire impossible, parce que c'est les chambres d'agriculture qui s'occupent de ça, les coopératives en font également, qui sont là aussi des structures beaucoup plus puissantes, et l'État a tendance à pousser à ce que le conseil aux agriculteurs soit soit dévolu aux chambres d'agriculture. Pour ce qui est des achats groupés, qui est une mission historique du syndicalisme agricole il y a très longtemps, et que n'importe quel type de syndicalisme peut faire en théorie, pour la FNSEA c'est très dur vu que les coopératives sont là pour faire ça. Donc la FNSEA essaye de développer des achats groupés plutôt dans les marges du métier, du petit matériel de signalisation, des réductions quand vous allez chez les commerçants, etc. Mais pour ce qui est du cœur du métier, c'est à peu près impossible. Donc elle s'investit à ce niveau départemental sur un ensemble de niches qui lui permettent de proposer des services un peu nouveaux, un peu distinctifs aux adhérents, ou gagner de l'argent, dans le cas de la Normandie et de la Basse-Normandie, le journal syndical fait fonction de filiale qui permet de financer indirectement le syndicalisme. Alors ça, c'est très variable en fonction des départements, quoi. Vous avez des fédérations qui ont développé certains services et pas d'autres. Et de manière générale, c'est assez difficile de développer des services marchands. Le fait que ce soit hétérogène entre fédérations départementales, il me semble que ça explique le fait que ces fédérations départementales auraient intérêt à travailler plus ensemble maintenant, à mutualiser des forces, mais ont des structures d'entreprise, disons, pour dire très vite, qui sont très différentes. Et s'il y a une structure riche qui est sollicitée pour collaborer par une structure beaucoup plus pauvre, ben c'est difficile de mettre les choses en commun. Donc, en résumé, je voudrais souligner que, de mon point de vue, il n'y a pas à opposer un syndicalisme qui serait militant avec un syndicalisme de service, mais en fait qu'on gagne plus à s'intéresser aux continuités entre les deux, que les enjeux économiques, stricto sensu, même pour les structures syndicales, sont à peu près aussi importants que les enjeux idéologiques. Il y a des fédérations qui peuvent être d'accord sur les idées, mais pas d'accord, enfin, mais très différentes en termes de structure et donc pas collaborer. De manière générale, on observe une diminution des soutiens externes au syndicalisme agricole et des difficultés à développer des services marchands, donc il devrait y avoir plus de coopération, mais c'est compliqué. Un dernier point sur qui sont les agriculteurs qui s'investissent à la FNSEA. J'aurais pu commencer par ça, mais j'ai choisi de le faire en dernier, parce que, à mon avis, la structure institutionnelle, enfin, tous les aspects institutionnels que je vous ai mentionnés, déterminent plus la sélection, enfin, déterminent plus qui sont les agriculteurs qui s'investissent à la FNSEA et qui y restent, plutôt que l'inverse, quoi. C'est plus, vous voyez, c'est pas, il y a des agriculteurs qui vont à la FNSEA et ça détermine ce que la FNSEA fait, mais c'est plutôt l'inverse. Alors, dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que la base sociale de la FNSEA, c'était ce qui a été appelé des agriculteurs moyens plus en termes économiques, et qui sont fortement engagés dans la modernisation, entre guillemets, c'est-à-dire dans la mécanisation, l'agrandissement, les plans de développement, etc. Je voudrais montrer que la FNSEA garde toujours une base importante d'adhérents fidèles, mais qu'on observe des formes d'effritement de la présence des agriculteurs les plus avant-gardistes parmi les agriculteurs engagés à la FNSEA. Alors, si on s'intéresse aux dirigeants départementaux des années 90-2000, ceux que j'ai observés, on trouve beaucoup de continuité avec la génération précédente. Bon, c'est des enfants d'agriculteurs. Leurs parents étaient souvent militants FNSEA, délégués cantonaux, fidèles, des gens, des piliers des sections cantonales, des gens qui, pardon, qui étaient assez rarement militants au niveau départemental, par contre. Et il y a eu beaucoup de travaux sur les gens qui s'étaient engagés à la jeunesse agricole catholique parmi les jeunes agriculteurs qui ont formé des générations de dirigeants des années 60-70. Bon, ces gens-là, de cette génération bien connue, se sont plus engagés sur les aspects sociaux du syndicalisme agricole et les aspects de vulgarisation technique. Les parents des militants FNSEA actuels étaient plus engagés sur les questions économiques. Donc ça vous pose déjà deux petits mystères. Où sont les enfants de responsables départementaux de la génération précédente, et où sont les enfants de responsables plus dans les questions sociales? Bon, pour ce qui est des dirigeants FNSEA actuels, enfin, ou d'il y a quelques années, c'est des gens qui sont très fortement insérés dans le milieu agricole. J'entends par là beaucoup de sociabilité agricole, souvent un conjoint agriculteur aussi. Un militantisme très précoce aux jeunes agriculteurs, donc à la branche jeune de la FNSEA. C'est des gens qui ont pris des responsabilités très tôt, qui ont eu de la visibilité très tôt, qui sont habitués au travail syndical très tôt. Et pour la plupart d'entre eux, pour cette génération-là, leur engagement s'est déclenché pour une question de marché des terres, de régulation du marché des terres, d'accès à des formes d'agrandissement, et contre la Confédération paysanne, qui était le syndicat enfin l'opposition principale à la FNSEA à cette époque-là, et ça a structuré une partie de leur carrière. Alors là, c'est des statistiques sur les adhérents de la FDSEA de l'Orne en 2000 et en 2010. Alors, sur la base du fichier des adhérents, les catégories, c'est moins de 20 hectares, 50 à, 20 à 50 hectares, 50 à 100 hectares, 100 à 200 hectares et plus de 200 hectares. Il y avait assez peu d'adhérents de moins de 20 hectares, ce qui est assez compréhensible vu que la politique menée par la FNSEA revient à éliminer, disons, les petites fermes. Plus surprenant peut-être, en 2000 et encore en 2010, alors entre les deux, vous voyez un agrandissement des surfaces moyennes des adhérents de la FNSEA. En même temps, vous avez un agrandissement général des surfaces des exploitations avec un mécanisme de concentration tout à fait classique et continu. Plus surprenant, peut-être, vous avez beaucoup d'exploitations qui ne sont pas si grandes que ça. Vous avez beaucoup d'exploitations, même en 2010, qui sont entre 50 et 100 hectares. C'est la catégorie donc la plus nombreuse. Alors que la moyenne de la surface des exploitations à cette époque-là devait être de 80 hectares. Donc on a des exploitations plutôt moyennes, un peu plus grandes que la moyenne si on veut. Parmi les agriculteurs, disons à temps plein, quoi. Mais vous avez très peu de très grandes exploitations. Ça se voit bien dans le graphique de droite avec les taux. Alors la courbe du haut c'est 2010, la courbe du bas, bon, la courbe du haut c'est 2000, la courbe du bas c'est 2010. Bon, vous voyez une diminution du taux d'adhésion pour toutes ces catégories-là de surface. Ça fait une diminution générale du nombre d'agriculteurs. Enfin, pardon, combiné avec la diminution générale du nombre d'agriculteurs, ça fait une diminution du nombre d'adhérents qui est assez nette. En même temps, la diminution du nombre d'adhérents n'est pas si grave au niveau des finances, puisque c'est les hectares qui cotisent. Donc, c'est un peu compensé par le mécanisme de fixation des montants des adhésions. Surtout, vous voyez que la FNSEA est très peu présente, enfin, assez peu présente parmi les très grandes exploitations. Et plus on va vers les exploitations grandes, au-delà de 100 hectares, qui commencent à être sérieuses, les gens ne sont pas là, adhèrent pas. Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, ça contraste quand même assez fortement avec la caricature qu'on peut observer assez souvent des syndicalistes FNSEA comme des gros Américains qui ont des centaines d'hectares. Bon, ça, c'est pas vrai. Alors, je voudrais dire mais quand même, il faut mettre un tout petit peu de... Enfin, il faut prendre ces chiffres avec un petit peu de précaution parce que c'est des données déclaratives des adhérents au syndicat sur leur surface, et ils ont intérêt à pas trop déclarer, parce que c'est les hectares qui cotisent, donc plus ils déclarent, plus ils payent. Mais, vous voyez, si vous avez vraiment 200 hectares et que vous déclarez 200 hectares, eh ben, vous payez plus cher que si vous déclarez 120 hectares. Donc vous avez une incitation simplement à sous-déclarer. Mais parmi j'ai fait des petits sondages et j'ai comparé avec les exploitations que je connaissais dans les cantons que je connaissais particulièrement bien. Le taux de sous-déclaration n'est pas si énorme que ça. Donc je pense que ces données sont pas si fausses que ça. Et si on fait des enquêtes qualitatives, on voit que les grosses exploitations sur un plan économique sont pas du tout, ou très peu, à la FNSEA. De manière plus générale, il me semble que les agriculteurs dominants, entre guillemets, que ce soit sur un plan économique stricto sensu, ou sur le plan des techniques d'exploitation ou de commercialisation, ont tendance à se détacher de la FNSEA. Donc on a vu qu'il n'y a pas les plus grosses fermes. Si on regarde les gens qui s'engagent dans de nouvelles formes de commercialisation, que ce soit de la vente directe ou de la spéculation sur les céréales, tout seul avec son ordinateur, ou alors d'un autre côté, les gens qui se sont investis ou s'investissent sur des modes de production nouveaux, avant-gardistes, quoi. Que ce soit l'agriculture biologique ou que ce soit des nouvelles technologies d'intensification de la production. Ces gens-là, en général, sont très peu investis et sont de moins en moins investis dans le syndicalisme FNSEA. Ça peut prendre deux formes. Ça peut prendre une forme d'un détachement. Ils peuvent rester adhérents mais pas être impliqués dans les responsabilités. Ça peut prendre aussi la formation de petits groupements, petits groupements spécialisés sur telle innovation technique, les groupes de développement technique sans labour, les groupes de développement sur l'alimentation à base de l'herbe, enfin l'alimentation animale à base d'herbe, etc. Et de manière générale, il me semble que les petits groupements qui se développent sur la base de techniques de production un peu avant-gardistes sont plus souvent antagonistes ou peuvent se mobiliser contre la FNSEA, tandis que les gens qui font de la vente directe en général ne se mobilisent pas tellement sur le plan syndical et politique. Dernier facteur qui contribue à une forme de détachement, bon, il y a différentes formes de détachement, hein, mais une insertion moindre dans le milieu agricole, disons le fait d'avoir un conjoint qui n'est pas agriculteur ou agricultrice, ça n'aide pas statistiquement à s'engager à la FNSEA et à faire beaucoup de réunions avec des agriculteurs, etc. Et parmi les gens qui sont les plus avant-gardistes entre guillemets, il y a pas mal de gens comme ça. Mon propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas des gens à la FNSEA qui se sont investis dans des techniques agricoles avant-gardistes ou qui ont fait la diversification, etc. Mais en général, si vous avez les deux facteurs là, soit engagement dans des nouveaux trucs, plus conjoint qui n'est pas là, qui n'est pas agriculteur, il y a beaucoup de cas qui sont comme ça, qu'on peut rencontrer, et qui ne sont pas investis dans le syndicalisme majoritaire. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces gens-là sont tous sauf marginaux, sont des gens qui sont considérés comme des référents professionnels localement et qui peuvent se mobiliser, notamment la grève du lait de 2009, qui est un gros mouvement contre la FNSEA, pour dire très vite, s'explique en partie par ça, je pense, par ce mécanisme-là d'effritement d'un ensemble de petits groupes élitaires un peu autonomes. Ce mécanisme-là, cette évolution sur le long terme, à mon avis, peut s'expliquer principalement par les évolutions de la politique agricole commune, et la manière dont les revenus des agriculteurs sont formés. Maintenant, les aides de la politique agricole commune sont plus forfaitaires que liées aux productions, donc techniquement les agriculteurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, ces conditions-là poussent, à mon avis, à un régime de concurrence où les innovations ciblées sur des techniques avant-gardistes sont plus promues. Voilà, je reviendrai peut-être un peu plus sur ce point si vous voulez. Et puis les évolutions sociales de l'agriculture, qu'il y ait plus de mixité sociale, disons, ça aide pas. Voilà, en résumé, donc une base toujours importante en proportion des agriculteurs. Dans l'ordre, on doit tourner à peu près 20% des agriculteurs professionnels qui sont syndiqués à la FNSEA. Ça fait quelque chose de l'ordre de 1000 personnes, peut-être un petit peu moins maintenant. Mais c'est toujours. C'est déjà pas rien par rapport au syndicalisme de salariés. Enfin, vous savez sans doute qu'on est à 8% en général dans le syndicalisme en France. Et les syndicats minoritaires ont beaucoup moins d'adhérents que ça. La FNSEA a une capacité moindre à mobiliser quand même. Il y a moins de monde. Pour faire des manifestations de masse, c'est plus difficile. Donc ça explique qu'il y ait de plus en plus d'actions symboliques. Là, j'ai pas développé, mais c'est un élément important des actions. Un discours quand même globalement défensif et une difficulté à capter donc ces nouvelles avant-gardes dans un syndicalisme vraiment unitaire. Mais il ne faut pas oublier que c'est donc une organisation qui a beaucoup de ressources matérielles, des ressources intellectuelles, des réseaux politiques, etc. Et donc un ensemble de possibilités pour se transformer. Quelques mots de conclusion pour finir. Ça reste une grande organisation politique française, enfin une organisation qui a 200 000 adhérents, tout du moins revendiqués. Ben, il n'y a pas beaucoup de partis politiques, par exemple, qui auraient autant d'adhérents. Enfin, c'est pas rien. Et ça reste une organisation importante de promotion, de formation, de groupes plutôt populaires, même si on peut discuter du qualificatif populaire pour les agriculteurs. J'ai voulu insister sur les dimensions matérielles du syndicalisme et institutionnelles, pas tellement sur les idées, même si elles sont évidemment présentes. Il me semble que les évolutions du syndicalisme agricole se comprennent bien si on tient ensemble ses relations avec les organisations professionnelles, l'État et les marchés en même temps. Et enfin, il me semble qu'on peut esquisser une capacité du syndicalisme à opposer des résistances relatives à la libéralisation des marchés agricoles, même si c'est assez compliqué et très divers suivant les sous-secteurs. Voilà, je vous remercie beaucoup.